les rêves. Ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous voilà de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Mathilde, bonjour.
Bonjour.
Et
Riwana.
Riwana, j'ai toujours du mal avec ton prénom, excuse-moi. Du collectif Cholay.
C'est ça, du collectif Cholay.
Cholay, pardon. Et j'ai aussi du mal avec le nom du collectif. Je vous reçois toutes les deux pour le magnifique ouvrage « Des vies orageuses ». Publié aux éditions Le Monde à l'envers, qui est vendu à Publico, notre librairie chérie, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Fille du Calvaire ou Oberkampf. Alors, pourquoi le titre des vies orageuses ? Riwana, Mathilde ?
Le titre, ça nous a pris pas mal de temps pour le trouver. C'est un peu la dernière étape de l'écriture du livre. À la base, on avait plutôt pensé au titre. Quand on a envoyé le manuscrit aux différentes maisons d'édition, le titre, c'était « Elles migrent, elles squattent, elles annoncent le printemps », qui est un slogan de la marche des sans-papiers.
Tout à fait.
Et on trouvait ça assez beau, cette histoire. Enfin, ça fait référence aux hirondelles qui sont
tout à fait
les oiseaux qui n'ont
pas
de
choisi.
Voilà, tout à fait. Et effectivement, c'est les animaux qui ont vraiment pas de frontières. Enfin, bon, en tout cas, qui peuvent traverser les frontières plus facilement.
Ils traversent les frontières plus facilement que les êtres humains, en tout
c'est
cas.
Ça.
C'est sûr.
Mais ce titre, quand Le Monde à l'envers a accepté de publier le livre, ils nous ont dit que ça collait pas tout à fait parce que déjà le livre, il parle pas que de femmes, et le fait d'avoir un titre avec elles dedans, ça pouvait prêter à confusion et que c'était pas toujours très clair. Donc on a dû réfléchir à un autre titre.
Ouais. Et c'était. Enfin, moi, je m'attendais que le projet ait foire à plein de moments, mais je n'avais pas anticipé la difficulté du titre. Parce que nous, on était un collectif de 8 personnes, il y avait 6 personnes dans la maison d'édition, et il fallait que toutes ces personnes se mettent d'accord.
Ah oui, ça, je connais. À la Fédération anarchiste, on a ce problème. Il faut que tout le monde soit d'accord.
Et du coup, moi, j'avais très envie qu'il s'appelle « L'éclat de nos vies entêtées », ce qui est un extrait d'une chanson qu'on va écouter dans cette émission de Gaël Faye qui s'appelle « Seul et vaincu ». Et je trouvais ce titre très très beau, mais j'étais la seule à trouver ça beau. Et on avait une trentaine de titres à un moment. Nous, on était deux à faire la navette entre le collectif et la maison d'édition. Et donc, on avait plein d'idées. On faisait voter nos amis. On avait fait des framas pour que les gens... On l'avait envoyé à des gens pour qu'ils votent, ce qui n'avait rien à voir avec le collectif. Et finalement, on est arrivé à... on a supprimé l'éclat, on a changé entêté, on est arrivé à nos vies enragées. Et en fait, moi, j'arrêtais pas de dire orageuse, parce que je lisais en ce moment un livre qui s'appelle « Des orageuses » de Marcia Brunier. Et j'arrêtais pas de dire orageuse, et du coup, on a fini par choisir « Des vies orageuses ». Et j'avais un ami qui m'avait dit... donc, on l'a choisi et on n'était pas très contents. Personne n'avait choisi ce titre. C'était plutôt que... C'était le seul qui avait pas de veto. Et un ami qui m'avait dit, tu verras, tu seras déçu au début, mais au bout d'un moment, ce sera le seul possible pour toi. Et c'est vrai que maintenant, des vies orageuses, pour moi, ça a du sens parce que la vie des personnes exilées est une vie sans aucune sécurité.
Aucune.
Et du coup, ça fait que c'est des vies qui sont soumises à l'orage.
Oui.
Il y a des gens qui les aident, et ben ça va mieux. Il y a des gens, il y a une situation qui s'aggrave, c'est la catastrophe. Enfin, c'est vraiment avec des brusques changements de climat.
Oui, c'est l'incertitude totale. Mmh. Oui. Donc des vies orageuses. Et ce livre est passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que je vous reçois. Alors, je voudrais que vous nous présentiez à mes auditeurs. La personne la plus importante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les exilés, c'est Sarah, je dirais. Pourquoi Sarah ? Parce que elle est médecin et elle n'a aucune idée de ce qui l'attend dans sa mission. Je me trompe ?
C'est intéressant que tu dises ça, parce que pour nous, en tout cas, ce qu'on voulait, le personnage de Sarah, il permet surtout de voir beaucoup de situations des personnes exilées. On a essayé de dire, mais a priori ça marche pas tout à fait, que pour nous le personnage le plus important c'est Idrissa, parce que ce qu'on veut raconter c'est comment les personnes exilées subissent une grande répression en France. Et le personnage de Sarah, il permet surtout de montrer la diversité des personnes exilées, et il permet aussi de montrer une manière de s'engager, qui est de prendre beaucoup de responsabilités soi-même, de se charger, de se sentir extrêmement responsable de ce qui se passe, et du coup d'agir toute seule. Et par là, j'ai pas envie de divulgâcher le livre, mais non. En tout cas, Sarah, ça va pas se passer comme elle le souhaiterait.
Non, parce que beaucoup de médecins sont très cartésiens. Mmh. Ils partent du principe que c'est eux les médecins, c'est eux la référence, et ce qu'ils décident, c'est ce qui doit arriver. Non, la vie c'est plus compliqué que ça, et ce livre est magnifique. Et moi, je persiste dans mon a priori à dire que Sarah est importante. Pourquoi ? Parce que Sarah, c'est monsieur tout le monde. C'est tout. C'est aussi bien en France, Sarah, en Italie, dans le monde entier, les gens qui voient passer les exilés et qui ne se rendent pas compte de leur détresse, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont nous apporter, et qui ne se rendent pas compte de la maltraitance que leur indifférence, parce que c'est leur indifférence qui permet aux autorités de les maltraiter à ce point-là. Et ça, Sarah, c'est très important. Quand elle découvre petit à petit que la plupart de ceux qu'elle reçoit dans son cabinet, je ne vais pas donner plus d'informations, ont le nom d'une association, on s'imagine qu'ils sont domiciliés à cette association, et qu'ils sont hébergés. Non, ils ne sont que domiciliés. Donc ça veut dire qu'elle ne se rend pas compte, dans les premiers temps, qu'elle va soigner ou elle va prescrire des soins à des gens qui dorment à la rue. Et ça, c'est la réalité des exilés. La rue. Et on ne le dira jamais assez. C'est la rue. Mmh. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va revenir sur ton parcours à Briançon. Mmh. Parce que tu as été une montagnarde.
Je suis toujours une montagnarde et je pense que je le serai toute ma vie.
Alors, si qu'est-ce que c'est qu'une montagnarde ?
Eh ben, en tout cas, pour moi, c'est une personne qui habite dans les montagnes et qui, du coup, a un certain rapport avec cet espace-là. Et moi, je suis arrivée à Briançon en 2017, au moment où les personnes qui passaient normalement passaient par le sud, par la vallée de la Roya, par Ventimiglia. Mm-hmm. La frontière a été extrêmement militarisée en printemps 2017. Et du coup, les personnes ne pouvaient galérer vraiment à passer. Donc, ont commencé à passer par le col, le prochain col, qui était le plus bas. C'était le col de l'échelle à ce moment-là.
Oui.
Et ils ont commencé à passer et sont arrivés dans la vallée de Névache. Plus tard, ils sont passés par le col du Mont-Genèvre et du coup, sont arrivés dans la vallée de la Durance, et la première grande ville, c'était Briançon. Et cette vallée, en fait, c'est une vallée qui est transfrontalière, qui est à la frontière, du coup, qui a une grande habitude des passages et des mouvements. C'était aussi une vallée où il y a eu beaucoup d'enfants de Paris asthmatiques qui sont venus vivre. Mmh. Il y avait des militaires aussi, il y avait beaucoup de casernes, donc il y a toujours eu beaucoup de mouvements.
Oui.
Et du coup, c'est assez rapidement, que ce soit à des organisations individuelles à Névache ou plus collectives à Briançon, des personnes se sont organisées parce que c'était insoutenable de voir ces jeunes, alors c'était encore en été à ce moment-là, donc traverser en basket dans le froid, mais ils savaient bien qu'ils allaient continuer de traverser et que bientôt il y aurait de la neige. Et du coup, il y a eu rapidement, l'Église catholique a ouvert une salle paroissiale pour héberger les gens. Ça a permis de créer un collectif. Ils ont ouvert, il y avait une ancienne caserne des CRS qui a été ouverte. D'ailleurs, c'est drôle parce que le collectif s'appelait Collectif Refuge Solidaire. Donc, on allait à la CRS jusqu'au jour où il y a eu une personne exilée qui est allée chez les vrais CRS de Briançon.
Ah,
parce qu'on lui avait dit qu'il faut aller à la CRS. Et du coup, le nom a changé à un refuge solidaire. Mmh. Après, c'est des CRS de montagne. C'est pas des CRS qui gardent l'ordre dans les villes, mais c'est des CRS qui font le même travail que le peloton de gendarmerie en haute montagne, donc ils sont secours. Donc ils les ont juste renvoyés vers nous. Mmh. Donc il n'y a pas eu de gros problèmes.
Gros soucis ?
Non.
Bah, ils sont des montagnards eux aussi,
oui,
quelque
voilà.
part.
En tout cas, et le premier lieu qui s'est créé, donc la CRS, c'est le collectif, le Refuge Solidaire, maintenant qui s'appelle, c'était vraiment un lieu fondé sur le modèle du refuge de montagne, avec un accueil inconditionnel de 3 jours.
Voilà.
Et comme dans les refuges de montagne, le gîte est de couvert. Et avec aussi, les mineurs étaient accompagnés à la préfecture de Gap pour faire leur demande de papier. Et après, au début, en tout cas, il y avait cherché des solutions avec les gens qui restaient un peu plus longtemps. Et on a, dans la foulée, il y a un squat qui s'est ouvert, qui s'appelle Chez Marcel, qui était juste dans Briançon. Donc ça a été un peu... Et les personnes qui ne voulaient pas partir restaient plutôt sur le squat d'exilés.
Alors, ce que je voudrais que tu définisses, c'est une montagnarde. C'est quelqu'un qui, inconditionnellement, quand quelqu'un passe et qui est en difficulté, l'héberge, l'accueille dans un refuge 3 jours. De façon inconditionnelle. Ça, c'est ce que j'avais gardé au souvenir de mes séjours à la montagne. Mmh. Il m'avait dit, si vous vous perdez, ne vous inquiétez pas, on vous hébergera le temps qu'on vienne vous chercher. Mmh. Parce que comme ils avaient compris que mon sens de l'orientation était défaillant, il l'est toujours. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Et ça, j'ai retenu ça des montagnards. Et quand on a eu les premières alertes de ceux qui allaient passer par l'école, on s'est senti à la fois soulagé parce qu'on s'est dit ce sont des montagnards, ils vont leur porter secours, et on s'est senti en détresse parce qu'on s'est dit la vallée de la Roya c'était déjà compliqué, mais les cols de montagne ça va être pire, il va y avoir des morts.
Et ben, ce qu'il y a eu, mais il n'y a eu pas des morts à cause de la montagne, il y a eu des morts à cause de la police.
Voilà.
Je pense que c'est toujours important de se dire ça. Je ne pense pas que c'est être montagnard qui fait vraiment la différence. Parce qu'il y a des policiers qui sont très montagnards, que moi je suis très amie avec plein de montagnards qui ont une solidarité de pensée mais pas de fait, et qui préfèrent aller faire des trucs extrême en montagne plutôt que d'aller faire des maraudes, par exemple. Donc, et je suis pas sûre qu'il y ait ça. Et de la même manière, le vrai danger dans la montagne, il y a une route. Le col du Mont-Genèvre, il y a une route, il y a des bus qui passent par la route. Sauf que les bus, ils sont toujours arrêtés par les policiers, que certains, et les chauffeurs de bus, on leur demande d'appeler les policiers, d'appeler la police quand il y a des personnes qui n'ont pas leurs papiers dans le bus. Et donc, il pourrait être à Briançon en 20 minutes.
Oui.
Blessing, les personnes qui sont mortes à la frontière sont mortes pour rien.
Oui.
Et elles ne sont pas mortes de froid, elles sont mortes de répression policière. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier, parce que ça pourrait... Enfin, si, c'est vraiment un problème de frontière et un problème d'accueil. Et ce n'est pas un problème de migration.
Tout à fait.
Le livre, en tout cas, il a vraiment cette idée-là. C'est pas parce que les personnes ne meurent pas parce qu'elles ont migré, elles meurent parce que il y a des
frontières,
il y a des policiers, il y a Frontex.
Voilà.
Et parce qu'elles sont mal accueillies une fois qu'elles sont arrivées.
Rihwana, oui.
Je disais que aussi les personnes peuvent mourir parce qu'elles sont mal accueillies une fois qu'elles sont arrivées dans le pays où elles, en tout cas, elles décident de rester soit un temps, soit le temps de trouver autre chose, mais aussi les conditions d'accueil dans lesquelles sont en tout cas les exilés en France, comme on disait tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas accès à une alimentation qu'elles choisissent. Tout ça, ça donne aussi des maladies. Et c'est des maladies qui impactent la santé et qui parfois peuvent faire mourir aussi.
Mmh. Alors, votre rencontre, Chulai et toi, comment ça s'est fait?
Ça s'est fait... Ben, en fait, le collectif Cholet, il s'est vraiment créé autour du livre. Et il s'est créé au fur et à mesure qu'on construisait le livre ensemble. Et du coup, il n'y a pas eu un moment de rencontre avec le collectif et Mathilde, mais il y a eu un moment de construction un peu commune. L'idée d'écrire ce livre, ça a émergé justement À une époque où, enfin, moi je suis médecin du coup, j'ai travaillé dans un centre de dépistage comme Sarah, et avec une autre amie aussi qui était hébergée, travaillait dans le même centre que moi. Pour nous, effectivement, c'était aussi difficile d'être confronté à des personnes dans des situations tellement de précarité où on ne pouvait pas trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et notamment pas mal de familles avec des enfants en bas âge. Et on a essayé de trouver en tout cas des solutions pour certaines familles. Et pour ça, on a fait appel à des associations qui acceptaient de trouver un logement. Mais il fallait qu'on trouve l'argent pour pouvoir louer ce logement. Et donc, on a fait une campagne, un crowdfunding. Mais du coup, il a fallu écrire. Il a fallu mettre en mots, en fait, des choses qu'on voyait tous les jours. Et nous, ça nous a permis d'échanger avec des proches, avec des personnes qui étaient moins confrontées et qui avaient moins connaissance aussi de ce qui se passait. Et d'une part, ça nous a fait du bien. Et d'une part, ça a aussi permis de sensibiliser des personnes qui étaient moins sensibilisées.
En tout cas, le livre est excellent. C'est un outil de sensibilisation et c'est un outil militant. C'est les deux. C'est pour ça que, en plus, son prix est militant. Il est de 10 euros. Et ça permet de faire comprendre une réalité aux gens qui ne sont pas, je pense, puisque moi je m'occupe aussi de personnes qui sont après celles que vous recevez, qui sont dans le statut de sans-papiers, une autre continuum de maltraitance, parce que leur demande d'asile a été rejetée et donc elles sont sans-papiers. Il y a des gens de bonne volonté qui n'ont même pas conscience de ce que ça signifie d'être sans-papiers dans un pays comme le nôtre ou dans un pays d'Europe barricadé par Schengen et par Frontex. Donc, ce livre, ça permet d'ouvrir les yeux, peut-être pas de leur demander de s'engager automatiquement dans les collectifs, mais au moins d'être moins indifférent et de comprendre que quand il y a une famille qui dort au pied de leur immeuble avec des enfants, d'appeler le 115 ou de donner aux associations qui peuvent se permettre de trouver une solution à ces familles.
En tout cas, c'était vraiment le but, notre but, de sensibiliser. Et donc, suite à ça, mais en fait, on habitait dans une colocation où il y avait aussi des personnes exilées qui habitaient, qui étaient hébergées, dont des gens qui ont pas mal vécu à Briançon, dans le squat dont parlait Mathilde tout à l'heure chez Marcel. Et Mathilde, elle est venue habiter dans cette maison pendant quelques mois parce qu'elle s'était cassé le pied et qu'à Briançon, elle n'arrivait pas trop à se déplacer avec son pied cassé. Et du coup, c'est un peu à ce moment-là qu'on s'est dit, mais en fait, Mathilde, toi, t'écris des livres. Nous aussi, on voit ça. On a des amis qui vivent des choses très compliquées. Est-ce qu'on irait...
Enfin, il faut aller ensemble.
On va faire ensemble. Est-ce qu'on va écrire... Enfin, est-ce que ça te dirait d'écrire un livre? Et Mathilde, elle a tout de suite été motivée par ça.
Et ce livre est très bien écrit. Je l'ai lu deux fois. J'ai l'habitude de lire les livres, ne serait-ce que pour préparer les émissions. Et il est très bien écrit. Il est très simple. Et le dialogue, le passage entre Sarah et Idrissa est très bien orchestré dans le livre. Ça, c'est... Les personnes qui ont lu le livre ont dû vous le dire.
Oui, on a eu un peu des compliments.
Mais je vous fais des compliments. Vraiment, chapeau. Et d'avoir fait parler Idrissa à la première personne est génial. Parce que ça vous permet de rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Et que ça, Sarah, elle, soit décrite à la troisième personne, c'est mieux. Parce que c'est vraiment... C'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit s'asseoir et prendre conscience de ce qui se passe. Si on ne se rend pas compte de la maltraitance et de la souffrance qu'on inflige à ceux qui viennent nous dans cette société, on ne se rend pas compte à quel point cette société devient inhumaine et violente envers nous-mêmes, nous aussi. Parce qu'il y a une violence envers les citoyens qui est faite par les mêmes mécanismes. On parle de violence policière contre les exilés. Mais les violences policières, on commence à se réveiller en se rendant compte de ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes et ce qui se passe dans toutes les manifestations. Mais en fait, ils se sont entraînés. Ils se sont entraînés sur les exilés, ils se sont entraînés dans les colonies, et ils sont à point pour s'attaquer aux citoyens qui sont contre l'ordre qu'on leur impose.
Oui, et en tout cas sur cette notion d'entraîner. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivée à Briançon, j'avais toujours vécu dans des petits villages de montagne, ou en tout cas des petites villes de montagne. Et j'étais pas du tout... Enfin, je pense que j'avais encore espoir dans l'État. Et je me rappelle qu'un des fondateurs d'une association qui s'appelle Tous Migrants, qui est une asso de Briançon, m'avait dit, et qui avait été longtemps syndicaliste et longtemps vécu dans des cités, m'avait dit, en fait, ce que je vois sur les personnes que vivent les personnes exilées, c'est des choses que vivaient les personnes dans les
quartiers sensibles.
Et que je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait aux exilés un jour. Oui. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, moi j'étais déjà plutôt de très à gauche, donc ça n'a pas mis longtemps à perdre cette confiance dans l'État. Mais en tout cas, j'ai vu aussi des personnes qui ça faisait très longtemps qu'elles habitaient à Briançon, qui est une vallée qui est très protégée à l'origine des violences policières et tout ça, et qui sont, en voyant ce qui s'est passé avec les personnes exilées, ont perdu vraiment des croyances dans l'État. En se rendant compte de ce qui est capable, ce que les policiers étaient capables, et du coup puisque l'administration, parce qu'on parle beaucoup des polices, de la police, mais par exemple, il y a plein de personnes qui arrivent en France avec des visas ou des faux papiers, et du coup sont pas tant confrontés aux policiers que ça, mais par contre sont confrontés à l'administration.
Tout à fait.
Et à la répression administrative et à la répression qui se voit presque pas, qui est encore plus difficile à dénoncer parce qu'il faut être vraiment dedans pour le vivre, pour la comprendre. Et ces personnes-là, elles ont vraiment eu un moment où ça a été... Toutes leurs croyances
se sont effondrées.
Et je pense que collectivement, on n'a pas assez réfléchi comment est-ce qu'on pouvait reconstruire des trucs dessus. Et il y a beaucoup de personnes qui ça a mis très mal, ça.
Bien. Mathilde, Riwana, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur le livre en particulier.
Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue, longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorités en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien, l'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles, avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé.
Clean my
vous finirez seuls et vaincus.
Chers auditeurs de La Rage de Don, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission des vies orageuses avec Mathilde et Riwana. J'ai bien prononcé?
Tout à fait.
Voilà. Alors, Riwana, je vais te demander de lire un extrait des vies orageuses. Significatif, cet extrait.
Alors, c'est un extrait qui... Donc, les vies orageuses, il y a une partie Idrissa et une partie Sarah. Donc là, c'est Idrissa qui parle. C'était après la brousse. Non. À Briançon, on dit la montagne. C'était après la montagne que j'ai rencontré. C'était au refuge. Une maison avec des lits, des tables, du thé chaud et du sucre. Il y avait des dessins au mur. Une grande feuille, refuge solidaire, et un guépard dessiné. Elle est venue le matin avec ses yeux bleus et ses cheveux courts et blancs. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées pendant la nuit ou hier? J'ai dit oui. Younoussa aussi. Ok, on va faire l'accueil alors. On est allés l'un après l'autre dans la petite pièce à côté. Elle m'a posé des questions. J'avais peur. C'était la police? Catherine a dit, tu es en sécurité aussi, ici. La police ne peut pas venir.
Merci Riwana. Donc ça, c'est vraiment l'accueil inconditionnel des montagnards. Et ça, je tenais à ce que ce soit dit à l'antenne. C'est un des extraits des Vies orageuses, c'est pages 17 et 18. Et c'est Idrissa qui parle. Il explique comment il est, une fois qu'il a réussi. Mais c'est des flashbacks qui nous expliquent son parcours, en fait, dans le livre. Une fois qu'il est arrivé au refuge, comment il est accueilli? Donc, 3 jours, du thé et du sucre. Et ça, pour quelqu'un qui a affronté... On le verra plus tard dans le livre, plein de choses, c'est inouï.
Oui, et en tout cas, moi, je voulais aussi montrer dans le trajet, donc à un moment, il y a une partie qui est... Il y a eu des flashbacks où Idrissa revit sa traversée de Guinée jusqu'en France. Je voulais pas du tout faire l'impasse sur les difficultés du chemin, et je voulais vraiment montrer... notamment, enfin, comment à chaque fois c'est vraiment l'enfer, mais je voulais aussi montrer les solidarités communautaires ou non qui se créent le long du chemin, notamment avec certains personnages qui viennent en aide, avec qui ils partagent des choses, qui va perdre sur le chemin, ou notamment en Libye, qui est en enfer pour des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest parce que ils sont esclavagisés, ils subissent beaucoup de racisme. Je voulais aussi montrer comment il y avait des foyers qui se créaient entre personnes exilées pour accueillir et pour que les personnes elles puissent avoir une sorte de
répit.
De répit. Et à Briançon, c'est pareil. C'est vraiment le mode du répit. Et je voulais montrer que c'était en continuum. Il y a aussi à Oulx, en Libye, au Niger... Il y a des moments, des endroits où il peut un peu souffler qui sont pas suffisants et qui viennent beaucoup de solidarité non étatique, même qui viennent que de solidarité non étatique, mais qui existent quand même.
Bien. Alors, le livre est vendu 10 euros et il est vendu à Publico. Et je vous incite à l'acheter, même sur le site de la librairie Publico. Pourquoi? Parce que c'est par ce mode-là qu'on pourra vous financer et vous allez m'expliquer comment vous financez d'autres associations amies?
Alors, pour le moment, on n'a pas de solidarité avec des associations amies. Par contre, la moitié des droits d'auteur et on fait pas mal de présentations dans des lycées, par exemple. La moitié de cet argent, à peu près, est utilisée soit des collectifs de personnes exilées, soit des personnes exilées du collectif qui ont besoin. En tout cas, il y a vraiment cette envie de soutenir aussi
concrètement.
Ouais, concrètement.
D'accord. Donc, Des Vies Orageuses, les éditions du Monde à l'envers, c'est ça? Que je ne dise pas de bêtises. 10 euros, Des Vies Orageuses. Alors, on va revenir sur Sarah. Sarah est médecin, elle a fini sa thèse, et elle s'imagine dans ce centre de dépistage avoir que c'est la quille. Et j'aimerais comprendre comment vous avez construit ce personnage de Sarah, Riwana.
Le personnage de Sarah, il a été construit D'une part, à partir de nos témoignages de moi et Valentine qui travaillaient dans le centre de dépistage, et aussi de l'expérience de Mathilde qui a pas mal accompagné aussi des personnes exilées. Donc nous, on a témoigné, on a témoigné de notre quotidien, des situations qu'on voyait aussi tous les jours. Alors après, Sarah, il avait aussi une vocation à être pédagogique, donc elle... Au début, vraiment, elle ne comprenait rien du tout. Et puis, petit à petit, elle comprend. Là où c'était un peu plus différent pour nous, quand même. Mais il y avait un peu cette idée-là. Et donc, Mathilde a créé ce personnage de Sarah. Et en fait, après, une fois que le livre a été écrit, il y a eu aussi un collectif. Le collectif s'est surtout créé au moment de la relecture. Et du coup, dans cette période de relecture, ça a aussi permis de faire des retours à Mathilde pour ajuster, en tout cas, certaines choses. Mmh. Et d'ailleurs, le personnage d'Idrissa, il a été créé de la même manière. C'était aussi des témoignages de trois personnes qui ont permis de créer le personnage d'Idrissa.
Mmh. Oui, et en fait, il y a quelque chose... Moi, j'ai écrit ce livre après avoir eu un accident et après avoir fait un burn-out militant. Mmh. Et j'avais pas du tout conscience de ce que j'allais faire. Mais je crois que dans le personnage de Sarah... L'endroit où j'ai mis le plus de moi, c'est...
Lorsqu'elle a son accident.
Et ben, en tout cas, pas forcément ça, mais c'est la manière dont elle s'est engagée. Parce qu'à Briançon, on a découvert ces questions d'exil avec l'arrivée des personnes exilées. On était très peu investis collectivement dans d'autres associations. Et du coup, il y a eu une sorte d'impératif d'action qui est très présent chez Sarah et un surinvestissement... Au sens où c'était vraiment, mais comment est-ce que c'est possible? Moi, j'étais très en colère contre mes amis qui allaient en montagne, puisque je me disais, comment on peut aller se promener, faire de l'alpinisme, de l'escalade, alors qu'il y a des personnes qui sont en train de galérer en montagne? Et j'avais très fort cette sorte d'impératif individuel. Et en fait, et collectivement, on l'avait aussi très fort. Et on ne prenait pas beaucoup de temps pour réfléchir à la manière dont on faisait les choses, à porter les choses collectivement. On est très... Moi, là, ça va. Je crois que ça va mieux parce qu'ils sont structurés à Briançon. Mais il y a un moment où j'avais l'impression que tout le monde faisait un burn-out après, à peu près. Enfin, personne n'était resté plus de 3 ans à la frontière sans faire un burn-out.
Ah oui.
Et pour moi, ça questionnait vraiment comment on s'organise. Et le modèle de Sarah, je pense que ça. C'est un modèle. Tu as dit tout à l'heure, et c'est très bien de dire que c'est un outil militant.
Oui.
Et c'est un outil militant parce que pour nous, c'était. On pensait que c'était pour les grands-parents des militants, pour qu'ils l'offrent et disent bah, « nous, on vit ça ». Donc c'était mais c'est aussi un outil militant, parce qu'il a, pour nous, c'est un support de réflexion sur comment est-ce qu'on s'engage.
Tout à fait.
Et Sarah, c'est un contre-exemple, parce qu'elle, elle prend toutes les responsabilités individuelles, elle fait les choses dans son coin.
Et elle ne délègue pas.
Voilà, elle ne délègue pas. Et moi, aujourd'hui... Moi, probablement, je pense que si je n'avais pas écrit ce livre et je n'avais pas conscientisé ça, j'aurais, en tout cas en 2019, je me disais que je ne serais plus dans les luttes pour l'exil et contre les frontières parce que ça m'a fait trop de mal. Et aujourd'hui, je suis partie d'un autre collectif qui accompagne des personnes qui demandent l'asile pour homophobie. Et c'est un collectif qui est vraiment fondé sur une volonté très forte de faire collectif. Mmh. On a beaucoup de moments où on réfléchit, où on se donne du soutien. Même si ça, là, moi, j'y arrive plus, du coup, j'arrive plus à accompagner, donc je me suis mise en retrait pour un moment, et ben, je fais quand même partie du collectif et c'est traité ensemble.
Ouais.
Et je pense que Cholay, on l'a pas dit, mais le mot Cholay, c'est un mot poulard,
ouais,
de la langue peul.
J'allais y venir, ouais, parce que j'avais une mère peul.
Ah, super. Donc... Bon, on en parlera après alors. En tout cas, Cholay, ce que ça nous a fait aussi comme bien, c'est. Moi, en tout cas, et je pense que Riwato aussi, c'est qu'on a eu un endroit pour raconter, pour parler de nos expériences, parce qu'en relisant le livre, on s'est dit, ah bah ça me fait penser à une autre situation. Et je crois que ça nous a fait du bien de collectiviser un peu nos problématiques les choses qu'on avait vécues individuellement, et se rendre compte que c'était pas nous qui savions pas faire, mais que c'était vraiment des situations compliquées.
Mmh. Ah, c'est des situations insurmontables. Mmh. Je peux en témoigner. Mm. Tous les jours, à ma permanence, j'ai ça. Mm. Donc, je sais de quoi par où vous êtes passé. C'est pour ça que j'ai lu avec attention. Mm. Je me suis reconnue dans plein de situations. Et j'ai lu avec détachement, parce qu'il faut faire une émission, et il faut donner envie de lire le livre et de l'offrir, et de le multiplier. Alors, tu as dit que c'est pour les grands-parents, mais c'est pas que pour les grands-parents, c'est pour les gens, monsieur tout le monde, c'est monsieur tout le monde. La situation ne changera que quand les gens auront massivement conscience. J'ai souvenir, en 96, de la situation des sans-papiers et des exilés autour de l'église Saint-Bernard. Quand l'église a été assaillie par les forces de police, c'est tout le quartier et toute la ville qui s'est soulevée. Et ils sont allés jusqu'au centre de rétention pour délivrer les sans-papiers qui étaient enfermés. Maintenant, si une église était attaquée parce qu'elle était... Ce serait quasiment dans l'indifférence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu... Les relais militants n'ont plus fonctionné, ou qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, mais en tout cas...
C'est une question qu'on se pose tous les jours, nous les soutiens aux exilés, aux sans-papiers.
Je pense qu'il y a quand même l'opinion publique, enfin, il y a le rôle des médias qui est très très important.
Voilà, mon sens. Et ça c'est primordial. C'est-à-dire que les médias ont été rachetés, on a laissé les médias se faire racheter par quelques milliardaires qui récupèrent les aides à la presse et qui façonnent le mode de pensée du plus grand nombre. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut quelque part des médias alternatifs, comme Radio Libertaire, comme d'autres médias. Et il faut porter la parole différemment.
Oui, et aussi, moi je me rends compte, à Briançon, ça m'avait marqué, il y a eu une grosse mobilisation dans un petit village. Et à un moment, il y a eu Génération Identitaire qui sont allés faire leur spectacle là.
Tout à fait.
Au col de l'échelle. En plus, ils se sont trompés de col. Bon, ouais, ça n'a rien empêché. Mais par contre, ça a eu un très fort impact sur
La démotivation.
Pas forcément la démotivation, pas les personnes. Parce que justement, ça a fait un grand élan. Il y a eu des grosses mobilisations. Mais par contre, il y a eu 200 CRS qui sont venus de
Gap.
Non, ils étaient à Marseille. Et il y a eu cette situation un peu ubuesque où il y avait mais tellement de CRS dans une ville où il n'y en a pas d'habitude, à part des CRS de montagne, mais bon, c'est quand même pas les mêmes. Et c'était assez... Enfin, je crois que ça a vraiment créé une insécurité. Ça a créé un sentiment d'insécurité. Je pense que ça a cristallisé les tensions.
Et ça a polarisé le débat, surtout.
Oui, et je sais pas si ça a un impact, mais en tout cas, quelques années plus tard, il y a eu un maire de droite, mais qui est vraiment une des positions d'extrême droite, qui est arrivé à la mairie de Briançon.
Voilà.
Et il y a eu... enfin.
Ils ont créé les conditions pour le faire venir.
Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu... Il n'y a pas que ça, parce que c'est aussi un maire qui a fait une grosse campagne en allant voir tous les commerçants. Mais je pense que le fait... nous, on était à des manifs, on était 40, et il y avait 100 CRS autour de nous. Et du coup, ça a fait penser que les gens, ils sont dangereux.
Alors qu'en fait, c'est les CRS qui sont dangereux.
Ouais, oui,
comme qui dirait, bon... Choulaï, pourquoi? Il y a plusieurs noms. Mais pourquoi Choulaï en particulier?
Alors, il y a une personne du collectif qui est de Guinée-Conakry et qui est Peul. Et c'est lui qui a choisi ce mot.
D'accord.
Alors, pourquoi celui-là en particulier, je ne saurais pas le dire. Merci. Mais plutôt, l'idée pour nous, c'était, comme le titre à la base, ça faisait référence aux hirondelles, de garder un peu cette histoire des oiseaux. Et du coup... d'après ce qu'il nous a dit, ça veut dire oiseau.
Tout à fait.
Donc, c'est pour ça que
c'est oiseau migrateur, très précisément.
Voilà. Ouais. C'est pour ça que ça a été choisi.
D'accord. En tout cas, c'est très joli. C'est ceux qui nous écoutent, parce qu'on nous écoute dans le monde entier. En tout cas, ceux de Guinée, je les salue. Et ils verront qu'il y a quelqu'un qui a apporté sa langue jusqu'ici. Et c'est ça, la richesse des exilés. Ils nous apportent quelque chose. On ne le dit pas assez.
En tout cas, pour nous, j'ai parlé de la première... C'est un roman à thèse. La première thèse, c'était... il n'y a pas de problème migratoire, mais il y a un problème d'accueil. Et la deuxième, c'est de dire... l'arrivée des personnes exilées est une chance pour nous. Et c'est une chance collective pour la France, enfin pour l'Europe entière, mais c'est aussi une chance individuelle. En tout cas, moi, je trouve que ma vie, elle est vachement plus chouette depuis que j'accompagne des personnes exilées. Sinon, je ne le ferais pas, parce que je n'ai pas une grosse tendance à masochiste. Mais pour moi, ça a du sens à plein d'endroits, et notamment parce que j'ai appris beaucoup, que ce soit politiquement, aussi... sur des manières de faire et je suis hyper contente. J'ai appris à danser un peu mieux et je suis hyper contente de ça.
En fait, le fait d'aider vous rend meilleur et on le fait d'abord pour soi. Mm-hmm. Les gens qu'on aide s'imaginent qu'on les fait pour eux. Mm-hmm. Mais moi, je leur dis toujours, ne me remerciez pas, je le fais d'abord pour moi. Mm-hmm. J'ai un parcours personnel qui fait que je viens vous aider. Et si vous voulez me remercier, tendez la main à quelqu'un d'autre qui sera un jour peut-être dans votre position et qui aura besoin d'aide.
Mmh. Ça, je pense que c'est très important de s'en rendre compte qu'on le fait pour nous, en première intention. Mmh. Et que ça nous apporte énormément de... Bah, comme disait Mathilde, énormément de choses.
Alors, est-ce qu'on peut en venir au deuxième extrait ? Que tu veux lire, Mathilde?
Je suis contente de le lire parce que c'est pas moi qui avait écrit, enfin c'est moi qui l'ai écrit, mais je l'avais oublié. Et je suis intervenue deux fois dans en lycée à Haguenau en Alsace. Et il y a une jeune qui avait choisi cet extrait et je le trouve, enfin j'ai envie de le lire parce que.
Parce qu'il est pertinent.
Ouais, il représente bien l'injustice auquel on fait. Enfin, en tout cas, ce qui est souvent un moteur d'action, c'est l'impuissance et l'injustice. Et donc, c'est la personne d'Idrissa encore. C'est plutôt à la fin du roman. Et ça fait référence à une loi qui est passée en 2019, le 5 novembre 2019, une des lois asile et immigration, où il y avait plein de changements, mais il y a eu un petit aspect de la loi qu'aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas eu un impact aussi important sur les personnes exilées. Ça veut dire que l'aide aux demandeurs d'asile, jusqu'à présent, elle était donnée en carte de retrait, donc on retirait de l'argent, et ça permettait d'avoir un peu d'autonomie. Et puis, ce jour-là, les personnes exilées ont reçu une nouvelle carte, et la carte, c'était uniquement pour payer en terminal carte bancaire. Ça a l'air de rien comme ça, mais pour une personne du collectif qui aujourd'hui vit vraiment des galères et qui a eu un parcours compliqué, pour lui, ça a été presque l'élément le plus humiliant et le plus dur. Parce que
c'est du contrôle.
C'est du contrôle, ouais.
À distance.
On ne peut pas payer le loyer, on ne peut pas envoyer de l'argent à sa famille avec une carte bleue.
Tout à fait. On leur complique la vie exprès.
Et ça montre vraiment l'impact que les personnes exilées n'ont aucune marge de manœuvre. Quand c'est la galère, elles subissent et elles n'ont pas une possibilité de se débattre. En fait, elles sont très dépendantes des nouvelles lois.
Et surtout, ce qu'il disait, lui, c'est que du coup, il faut trouver d'autres stratégies pour avoir du liquide, parce qu'en fait, il y a besoin d'en avoir. Du coup, de se retrouver à aller dans des supermarchés, demander aux gens qui vont acheter d'acheter avec leur carte et de leur donner en liquide après. Sauf que les personnes ne comprenaient pas cette démarche, parce que ne comprenaient pas la situation. Et du coup, il avait l'impression d'être vu comme un mendiant. Et ça l'a vraiment humilié, alors que ce n'était pas le cas.
C'est la réunion au Zola. Tous les frères ont la nouvelle carte, sauf Jules, qui a perdu l'ADA à cause du retour en Italie. Tous s'énervent et crient, ils ont raison. La vie est déjà difficile si en plus Macron ajoute d'autres complications. Il ne nous aime pas. Il veut qu'on ne puisse jamais travailler, qu'on ne puisse jamais avoir l'autonomie de l'argent. C'est lui qui fait de nous des faux hommes, des galérants, des enfants qui doivent toujours dire « s'il te plaît ». C'est lui qui nous dit d'aller encore à la préfecture, qui nous ramène en Italie où personne ne veut de nous. Moi-même, je suis en colère, mais je suis rien, moi. C'est lui, le président de la République. C'est toujours pareil. On dit, là-bas, c'est mieux. Je vais et je traverse le désert, la Libye, la mer. On m'aide, et parfois pas. Si personne ne tend la main, je ne peux rien, rien de rien. Quand j'aurai les papiers, je pourrai. Mais ce n'est pas maintenant, et je suis tout comme mes frères. J'ai une maison, de la bonne nourriture. J'ai de la chance, mais un jour, on me dit... Cette carte, c'est pour payer avec la machine uniquement, et je dois bien le faire. C'est quoi être en homme alors? Être comme l'enfant pour ceux qui décident pour moi? Étienne, Adrien, Estelle, Célia, Léa, ils ont quoi de plus que moi? Un travail, de la famille ici, tout ça parce qu'ils sont nés de ce côté-là, de ce côté où on peut. Moi, je viens de l'autre côté. Je suis de ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui sont des hommes pourtant. C'est comme une herbe amère qui toujours colle au palais, fait trébucher quand je veux avancer. Je ne demande rien de plus que d'être en Malankeba, en Africain d'ici, de France, en français, avec ce papier qu'on agite devant moi, sans jamais vouloir me le donner.
Tout est dit.
Tout est dit, sauf que ça donne l'impression qu'une fois qu'on a les papiers, la situation est réglée, alors que ça n'est pas du tout le cas. Et c'est souvent l'espoir qu'on a.
Ouais.
Alors que...
Ça maintient en vie. Mais quand je leur explique que... Quand ils auront les papiers, il ne faut pas oublier d'être heureux et que c'est le début des d'autres complications. Mmh. Les sans-papiers, ils ne comprennent pas parce qu'ils disent « Mais madame, vous avez des papiers, vous ne comprenez pas ce qu'on vit. » Je dis « Si, je comprends. Je comprends. Parce que moi, j'ai eu des parents sans-papiers à un moment donné de leur vie. Donc je comprends ce que c'est que d'être sans-papiers et d'avoir des enfants à nourrir. Mais ce système n'est pas fait pour les étrangers, il n'est pas fait pour les pauvres, il n'est pas fait pour les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Donc, essayez d'être heureux malgré tout. C'est le meilleur conseil qu'on puisse leur donner.
Oui, c'est vrai.
Alors, donc je rappelle le titre de votre ouvrage, mesdames, « Des vies orageuses », Mathilde Le Gall et Cholay. Aux éditions Le Monde à l'envers, et c'est vraiment un livre facile à lire physiquement. Il est petit, compact, mais écrit suffisamment gros pour qu'on puisse lire dans les transports en commun. Et il coûte 10 euros qui serviront à aider les exilés. Donc je vous encourage à venir l'acheter à Publico, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement, métro République, Oberkampf ou Filles du Calvaire. Vous pouvez l'acheter en ligne sur le site des éditions du Monde à l'envers ou sur le site de la librairie Publico. Il coûte 10 euros et vous pouvez écouter l'émission sur le site de Radio Libertaire en podcast pour réécouter les passages. Et je voudrais que Mathilde ou Rewana donnent les sites internet de Cholay, s'il y en a un.
On n'a pas de site internet.
Je ne l'ai pas trouvé. C'est pour ça que...
Alors, on a une adresse mail qui est tout à la fin du livre, sur laquelle on peut nous contacter. hirondelle@grésy.org. Après, on a sur les réseaux sociaux, plus ou moins activement, sur Facebook et Instagram, on a une page.
Voilà.
Mais on n'a pas de site. Par contre, on trouve des références sur le site du Monde à l'envers, la maison d'édition.
Tout à fait.
Oui, et je pense que c'était aussi en choix de se dire que le mode de diffusion, ça a été par des rencontres et par des émissions de radio principalement, et que c'était ce mode-là qui marchait le mieux pour nous. En tout cas,
je suis ravie de vous avoir invité et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Ouais,
vraiment. Alors, je remercie Frédéric, sans qui il n'y aurait pas d'émission, qui est un amour. On ne le dit pas assez. Je vous remercie, merci. Mesdames. Je vous dis rentrez bien. Et je rappelle que c'est les éditions du Monde à l'envers, votre éditeur, qui vous a fait confiance. Je ne sais pas si il est content du tirage. Vous avez un tirage conséquent?
C'est toi qui sais ça.
Il y a eu 2500 livres de tirés, ce qui est quand même pas mal pour un premier roman.
Mais oui, c'est même très bien. Même très bien. On va s'efforcer de vous aider à les vendre.
Merci beaucoup.
Pas de souci. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, faites attention à vous et portez-vous bien. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rajah de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve.